Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Un découpage administratif est-il nécessaire aujourd'hui au Mali? Quel type de découpage administratif faut-il pour le pays? Et quelle analyse de l'avant-projet ainsi que du processus lancé par les autorités du pays? Nos invités, trois spécialistes pour répondre à ces questions. Il s'agit de Dr Brema Elidiko, chef du département sociologie à l'Université de Bamako, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, maître en administration des affaires et spécialiste de la géopolitique, et Dr Ibrahim Sow, juriste spécialiste du droit public. Je rappelle que l'essentiel des questions qui vont être posées au cours de ce débat sont adressées par les auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Merci notamment à Brahima Mamadou Kone et Gisèle Flanda.
Le Grand Dialogue.
Première question qui sera adressée à vous, Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Pourquoi est-ce que un découpage administratif est nécessaire aujourd'hui au Mali?
Merci de me donner l'opportunité de donner mon avis sur un sujet aussi crucial de notre pays et à un moment assez crucial aussi. Moi, je dirais plutôt que c'est un redécoupage, parce que le pays est d'ailleurs découpé en régions.
En régions, tout à fait.
N'est-ce pas? Il y a une refondation que peut-être que les autorités veulent amorcer. Et moi, de mon point de vue, je pense que ce redécoupage est nécessaire. Est vraiment nécessaire pour plusieurs raisons. Peut-être que l'occasion me serait donnée de donner mon avis là-dessus. Est-ce que vous savez que depuis les indépendances, l'actuelle configuration administrative de notre territoire est un héritage du colon, en réalité. Bon, je pense que quand on a dit aux colons que la colonisation, on en a assez, et qu'on veut s'autogérer, on aurait dû inventer nos propres outils, pas les outils que le colon a laissés. Et ces outils-là, moi, de mon point de vue, le découpage, il n'est pas homogène. C'est ça qui pose le problème. Et c'est ce qui fait que, dans la durée, actuellement, on est en train de voir des crises qui naissent par-ci, par-là. C'est à cause de ce découpage qui n'a pas été fait sur des bases sociologiques, et linguistiques, économiques et même géographiques, je veux dire. Avant le colon, le Mali était... Avant l'avènement de la colonisation, on sait, les sociologues et d'autres personnes mieux que moi seront mieux indiqués pour dire qu'on a des régions ou des terroirs naturels dans ce pays. Et pourquoi? Aux indépendances, on n'a pas pensé reconfigurer, donner, revenir à ces terroirs-là et en faire des régions homogènes. Donc tant qu'on ne le fait pas, il faut s'attendre à ce que, un jour ou l'autre, il y a des crises de ce genre, des crises identitaires. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, encore une fois, je pense même que... mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais.
Donc, vous pensez qu'il le faut?
Il le faut,
d'accord.
Absolument.
À vous, Dr Ibrahim Sow, pensez-vous qu'il faut aujourd'hui un redécoupage du territoire?
Ok. Merci pour la question. Je pense que vraiment c'était une question qui était d'actualité depuis les années 2000, qu'il faut y aller vraiment vers une autre forme vraiment de réorganisation du territoire national et qu'on aille vraiment vers la création de nouvelles circonscriptions. Il était même dit, après la création des communes en 96, après les premières élections communales en 99, que la deuxième étape de la décentralisation et de la réforme administrative serait la régionalisation. Donc pour ce faire, il fallait observer un temps pour que vraiment cette décentralisation soit opérationnelle à un degré de satisfaction ou si on n'est pas satisfait de la chose, essayer de redéfinir la chose. Je pense que c'est à partir de 2010 que les réflexions vraiment sont tombées, vraiment qu'il faut urgemment qu'on aille vers cette question de réorganisation du territoire. Mais bon, comme mon prédécesseur l'a dit tout de suite, c'était une réflexion à partir de l'héritage colonial, après les deux premières républiques, notamment la réforme phare qui a été vraiment et reconnue vraiment sur l'architecture nationale, c'est un peu l'ordonnance de 1977-45 portant création la réorganisation du territoire après la conférence nationale qui a été provoquée pour mettre en place la Commission nationale de la réforme administrative qui avait réfléchi sur les questions de création des circonscriptions et comment adhérer les populations à la base à cette question de création des circonscriptions. L'idée est partie de là, donc on est sorti avec 6 régions et de la 2e à la 3e République, on a basculé vraiment dans une forme de décentralisation, de démocratie, disons, qui doit découler à l'exercice de la démocratie locale en 96. Donc on est parti vraiment vers la création de ces circonscriptions. Et en 99, qui a donné naissance également à la création des circonscriptions et des collectivités, régions et cercles. Donc voilà, nous sommes à un nombre, sans parler des dernières créations, Menaka et Taoudeni, Douala et Koutchala, qui ont été érigées en région, sans parler de ces régions, bien avant mars 2012, la loi du 2 mars 2012, déjà on avait vraiment une région, 8 régions et ainsi de suite. Mais compte tenu de la densité de la population aussi, du territoire national, disons, il fallait encore aller tout au fond du processus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que urgent d'aller vers la redéfinition de la cartographie nationale, essayer de créer de nouvelles circonscriptions, mais on en reviendra vraiment dans le contexte qui prévaut aujourd'hui, si ça justifie un peu la création de ces circonscriptions.
Docteur Brima Elidiko, si vous pensez aussi que c'est possible et qu'il faut le faire, est-ce que vous pensez que c'est indispensable à l'heure actuelle?
Bien, merci de m'avoir associé à ce débat. Est-ce que c'est possible? Oui, tant qu'on veut, on peut. Est-ce que c'est indispensable? Oui. Donc là, je rejoins M. Si et M. So. Est-ce que c'est le moment? Là est la question. C'est-à-dire que nous avons un État, un pays qui est très vaste, hein, 1 240 000 km². On avait 10 régions récemment, donc on veut créer de nouvelles régions. Pourquoi pas? Parce que l'objectif finalement, c'est quoi? C'est que les populations soient rapprochées du pouvoir. C'est-à-dire que Bamako se trouve souvent à 1 200 km, 1 300 km de certaines capitales régionales. Et c'est pour ça que dans certaines régions et dans certains chefs-lieux de région, on se sent plus proche du Niger ou de l'Algérie ou de la Mauritanie ou de la Côte d'Ivoire, etc. Donc, pour toutes ces raisons, si c'est une modalité pour pouvoir faire en sorte que les collectivités prennent leur destin en main et qu'il y ait une autonomie financière et de gestion, ça, c'est l'objectif recherché, c'est tant mieux. Ceci dit, c'est le contexte, je pense, qui pose des questions. Il faudrait régionaliser aussi. Pourquoi? Parce que, bon, c'est une des dispositions de l'accord d'Alger. Qui prévoit qu'il y ait en tout cas de nouvelles, qu'il y ait une sorte de régionalisation et que les collectivités soient plus proches. Tout ça, donc, l'esprit en soi est salutaire. Mais moi, je me pose bien des questions. C'est-à-dire que nous avions 10 régions. Enfin, on avait 8, on est passé à 10 récemment. Mais quelle autonomie véritable on a accordé à ces régions? Il y a beaucoup de compétences qui ont été transférées. Si je prends le cas des mairies, des compétences dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, mais les ressources financières n'ont pas accompagné. Ce qui fait que finalement, l'éducation a été bradée dans beaucoup de localités et on a formé même ce qu'on appelle les sarpiens, des gens qui ont été formés pendant 6-8 mois pour devenir des enseignants dans les écoles fondamentales, dans les écoles de base. C'est comme si, d'une certaine manière, au-delà de l'esprit, dans les faits, l'État central s'est désengagé en termes de responsabilité sur des collectivités qui ont été créées et qui, dans les faits, dans les textes, sont libres de s'administrer librement. Mais n'ont pas les capacités, les ressources, même humaines, même ressources financières, pour pouvoir se prendre en charge. Et donc cela peut poser des questions. Ces nouvelles régions qu'on va créer, avec quelles ressources on va les créer et quelles compétences on va transférer. Si vous prenez le cas de Gao, Gao a été un peu dépiécé pour créer la région de Kidal, ensuite a été dépiécé pour créer la région en fait, de Menaka. Donc on, là aussi, on va encore dépiécer Gao, on va créer encore d'autres régions. Et finalement, qu'est-ce qui va rester? Monsieur Si a dit quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays qui est vraiment un pays qui a une grande histoire. Vous avez le Djahounou, dans la région de Kaï, vous avez le Kingi, vous trouvez le Wassoulou, le Birgo, le Massina, etc., le Mandé. Donc là, ce sont des entités historiques dans lesquelles les gens se retrouvent et qui veulent dire quelque chose. Des régions comme ça, proposées par le haut et qui doivent être acceptées par le bas, ne veulent pas dire grand-chose. Je pense que tel que pensé, en tout cas le projet de réforme qu'on a vu et qu'on va discuter, d'une certaine manière, est conflictuel, en tout cas dans sa façon d'être présentée. Parce que si je prends le cas de la décentralisation, il y avait quand même une mission de la décentralisation qui a travaillé pendant 3 ans ou plus, enfin je parle sous le contrôle de Sceaux, et les gens ont été concertés. Malgré 2 ans, 3 années de concertation, il y a eu un grave problème dans le choix des chefs-lieux de commune. Parce que vous savez que là aussi, nous avons en matière de droit, je ne suis pas juriste, ça je parle sous leur contrôle, une juxtaposition du droit coutumier et du droit conventionnel. C'est-à-dire que la terre appartient à celui dont l'ancêtre a été le premier à piocher, à la mettre en valeur. Mais quand on voulait créer les nouvelles communes, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les seconds arrivants, finalement, ont pu créer des villages qui sont devenus des bourgs, alors que les villages mères étaient restés un village qui, en tout cas, du point de vue de la décentralisation, n'était pas viable pour abriter un chef-lieu de commune. Et c'est pour ça que souvent, vous avez des communes de 3 villages, des communes de 4 villages, et des communes, souvent, qui couvrent une grande superficie et qui fait pratiquement l'équivalent de certains cercles au Mali. Donc, je pense que, oui, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais il faut se donner le temps au temps. Parce que nous sommes dans un contexte de légitimité du pouvoir, de crise politique à Bamako, une crise post-électorale majeure, mais qu'on est en train, d'une certaine manière, de gommer ou de zapper. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de réforme territoriale si la classe politique n'est pas d'accord, si la société civile n'est pas d'accord. Maintenant, ça, c'est le premier préalable. Le second préalable, c'est de commencer les concertations, non pas au niveau régional, mais au niveau local, comme ce fut le cas pour la décentralisation. Parce que si on ne le fait pas, justement, ces entités historiques dont parlait M. Sy ne pourront jamais être prises en compte et on risque finalement d'avoir des acteurs. Chacun va vouloir que sa commune soit érigée en fait en cercle, que son cercle soit érigé en région et finalement, on va passer beaucoup de temps. On va peut-être les créer juridiquement, mais on ne pourra pas dans les faits les faire fonctionner.
D'accord. Voilà. Alors, docteur Ibrahim Sow, que disent nos textes par rapport au découpage administratif?
Bon, par rapport au découpage administratif, vraiment, il n'y a pas un texte consensuel qui est là. C'est juste comme Dico l'a dit tout de suite, vraiment, c'est de renvoyer la décision au niveau local. Par exemple, en 1996...
Est-ce que le découpage ne se fait pas en termes de population, d'habitants de...
Oui, il y a tous ces critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a le critère administratif qui est là, il y a le critère démographique qui est là, le critère économique est là. Vraiment, il faut que tous ces critères vraiment soient suffisants vraiment pour qu'on puisse ériger une circonscription, par exemple, en cercle ou en région. Or, on voit que vraiment dans les réformes de 1996 et de 1999, on a vu que vraiment beaucoup de communes vraiment ont été créées, soit vraiment des fois par des opportunités politiques, mais en même temps, il y a de ces exigences vraiment que certaines communes ne répondent même pas pour être érigées en entité décentralisée. Ça, on a eu tous ces problèmes. Mais bon, si...
Vous avez dit quelque chose, opportunité politique. Avez-vous l'impression que c'est le cas cette fois-ci?
Bon, je me dis, c'est quelque part, l'opportunité politique est là, mais quand même, l'opportunité juridique aussi est là pour qu'on aille vraiment vers ça. L'opportunité politique, je pense que vraiment, c'est en lien avec ce qu'on appelle l'accord d'Alger. Mm-hmm. Donc, vraiment, je ne peux pas engager vraiment l'accord d'Alger pour la faisabilité de la création de ces circonscriptions. Mais quand même, l'opportunité juridique, l'opportunité physique qui est là, qu'on est en train de vivre, on sait que vraiment, il y a beaucoup de circonscriptions qui sont vides. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'autorité déconcentrée, il n'y a pas de représentant de l'État, il n'y a rien. Donc il faut que vraiment ces zones soient animées pour qu'il y ait vraiment une vie. Et puis bon, ça peut être vraiment un facteur aussi d'être vraiment en sécurité quelque part. Donc il faut qu'on aille vraiment vers la création de ces circonscriptions. Mais du point de vue juridique, ce qu'on a vu comme, par exemple, les projets de draft qu'on a vu circuler vraiment sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que vraiment ça soit le vrai draft, le vrai projet. Parce que vraiment, si c'est le vrai projet, je pense que vraiment, c'est scandaleux quand même. C'est scandaleux.
Mais si ce n'est pas le vrai projet, pourquoi les autorités n'ont pas réagi pour démentir que ce n'est pas...
Ben ouais, je ne sais pas. Si vous avez regardé le journal avant-hier, le mardi, le journal de 20h du mardi, le Premier ministre, à la rencontre de la majorité présidentielle, il a dit, il est venu vraiment avec la vraie version du projet, soumettre vraiment à l'appréciation de la majorité présidentielle. Donc cela sous-entend que vraiment le projet qu'on a vu vraiment sur les réseaux, ça nous amène des doutes. Est-ce que vraiment c'est la vraie version? Donc il faut qu'on ait accès vraiment à la vraie version. Vous, les journalistes, vraiment, vous pouvez nous informer sur ces détails. Mais quand même, moi, je ne suis pas très sûr que vraiment le projet qu'on a vu sur les réseaux, je ne suis pas très sûr vraiment que c'est la version provisoire qui a été conçue, soit par le département ou par n'importe quel service, je ne sais pas. Mais quand même, si on prend par exemple un exemple de cas comme la région de Menaka, par exemple, la région de Menaka qui constitue une poignée de personnes, et dans le code des collectivités, on a vu, quand on va ériger une entité en commune, par exemple, l'article 5 du code des collectivités nous renvoie déjà à un minimum de nombre de conseillers d'une commune de 11 conseillers en raison de 10 000 habitants. Est-ce que la région de Menaka, dans sa globalité même, vaut 10 000 habitants? Moi, j'ai ce problème. Et d'autres circonscriptions qui ont été érigées en région, mais en réalité qui n'ont pas vraiment certaines potentialités vraiment pour être érigées en région. Mais je sais que vraiment, comme le Premier ministre l'a dit, on attend un peu les concertations régionales et si toutefois les concertations locales pour que vraiment toute la population vraiment puisse adhérer à la réflexion. Et puisque c'était la logique de 96, toutes les associations de villages, de quartiers, les chefferies, les autorités traditionnelles, les représentants de l'État, les maires et autres vraiment ont été impliqués dans la création de ces communes.
Donc, d'accord. Ces conférences régionales sont prévues du 13 au 17 novembre prochain, selon les autorités du pays. Alors, est-ce que vous pensez que si, au cas où ce document qui circule sur les réseaux sociaux et partout à travers le pays ne serait pas le bon document, est-ce que les autorités ne sont pas en retard, puisque le 13, c'est dans 5 jours?
Ceci. Très bien. En retard, ça, il faut, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que c'est-à-dire que dans ce pays, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'à chaque fois, on essaie de mettre la charrue avant le bœuf. Rappelez-vous que lors des élections, il a fallu qu'il y ait des documents qui sortent et on tape sur la table et un autre document sort. Non, il y avait des erreurs, bon, on a problème de compilation. C'est quoi ça?
Avez-vous l'impression que c'est fait exprès?
Oh, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je suis militant d'un parti politique. Tu sais, bon, tous les moyens sont bons pour atteindre son objectif. C'est comme l'impression. Mais j'avoue qu'il est temps, grand temps pour nous, Maliens. Surtout, nous, les intellectuels, entre guillemets. Je le dis entre guillemets, parce que n'est pas un télo celui qui est allé à l'école du blanc.
C'est clair.
Pas parce qu'on a l'impression de confondre les deux. J'ai étudié dans la langue de Shakespeare ou de n'importe quoi,
de Molière.
Mais est-ce que ça veut dire que vraiment j'ai acquis la connaissance, je suis un intello? Non. Comme dit Magma dans son émission, les Africains ont eu tous les diplômes du monde, n'est-ce pas? Mais on est resté des ignorants dans le vestibule du savoir, n'est-ce pas? Donc, faire exprès, je n'en sais rien. Je ne peux pas préjuger de ça. Mais je me dis quand même qu'il y a une mauvaise façon de travailler, si l'on veut. Si on le fait pour ce pays, pour l'intérêt de ce pays, pour l'intérêt du Mali, je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. Faire sortir, fuiter un document et venir dire que ce n'est pas la bonne version.
Mais justement, est-ce que ça ne remettrait pas la crédibilité des acteurs?
Mais justement, c'est-à-dire qu'on se demande, ils sont là pour nous, pour le Mali, ou ils sont là pour eux? Soyons sérieux. On a prêté serment. Le premier Malien a prêté serment. Il garantit les lois, il est le garant de la Constitution. La Constitution étant la mère de toutes les lois, moi je pense que lui doit veiller à ce que ces déviations, ces manquements n'arrivent pas. C'est clair. Vous savez, il y a juste une petite anecdote. Ça dit, tu sais le faire? Il ne s'agit pas d'être un docteur, un professeur et tout. Il faut savoir travailler. Apparemment, ici, on ne sait pas travailler. Clinton dit à Chirac, pour moi, il faut être pragmatique. Il pose une question, je me permets de faire juste une petite parenthèse, il pose une question à Al Gore, qui était son secrétaire d'État d'alors. Quel est l'enfant de ta mère qui n'est ni ton frère, qui n'est ni ta sœur? Al Gore répond que c'est moi. Mais pour Chirac, c'est toujours Al Gore, parce qu'Al Gore a dit que c'est moi. Et quand Chirac va poser la même question à son premier ministre quand il retourne en France, ben celui-là mettra 24 heures pour trouver une réponse et une mauvaise réponse. Il va les fouiller dans toutes les théories, machin. Il va réveiller Vaugelas, je ne sais pas qui et d'autres. Toutes les encyclopédies françaises, il les sort pour trouver la réponse à ça.
Donc vous pensez que les autorités maliennes...
c'est un peu ça. Okay. Mais c'est un peu ça. On n'a pas besoin de ça. Je disais à l'entame que, qu'est-ce qui se passe? Prenez par exemple une région administrative comme Kay ou Sikasso. Il y a comme un terroir à Sikasso. Il y en a beaucoup. Quand tu prends le Wassoulou, voilà une région naturelle homogène. On est tous à Bamako ici, Bamako Diondado. Excusez-moi. C'est pour personne. On vient ici à Bamako pour aller à l'université. Après, on ne repart plus au village. On vient à Bamako pour nous soigner. Et après, les va-et-vient, on reste. On vient à Bamako pour trouver un passeport. Tenez-vous bien. Est-ce que c'est normal, ça? Celui qui est à Kidal, est-ce que le Bamako est plus malien que celui qui est à Kidal ou à Gao? Est-ce qu'à Gao, il ne peut pas obtenir son passeport? Il ne doit pas pouvoir obtenir son passeport ou se soigner convenablement? Le problème, il ne s'agit pas seulement de refaire un découpage, faire une liste. Comme quoi, bon, voilà, bon, il y a Menaka qui devient une région, il y a, je ne sais pas moi, Gundam qui devient une région, etc., etc. Il ne s'agit pas de ça. Il faut mettre ensemble des choses qui se ressemblent, qui vont ensemble. C'est ce qu'il faut faire. Et faire de Bamako, enlever beaucoup d'autorités à Bamako. C'est ça le mal. Le problème du Mali, on va décentraliser, on va régionaliser, on va découper à la guise. Tant qu'on ne retire pas un certain nombre de pouvoirs de Bamako, on viendra tous à Bamako ici, on va abandonner cette région, il n'y aura rien.
D'accord. Docteur Brema Ilidiko, que ce document qui circule soit le bon ou pas, il y a quand même un document qui est élaboré ou en cours d'être élaboré. Alors, est-ce que ce document devrait être élaboré par la population ou est-ce que la population devrait juste accueillir un document?
Bien. En fait, ce document, nous l'avons vu tous, hein, il n'a pas de cachet. Donc, en réalité, non. C'est un document PDF qu'on a vu circuler, il n'a pas de cachet, donc on ne sait pas qui l'a élaboré. Bon.
Mais qui va se donner...
Vous savez, le problème, c'est qu'il y a deux options. Enfin, moi, je pense qu'il y a deux hypothèses, comme on travaille avec des hypothèses. Parce que l'État n'a pas démenti. Une des hypothèses, c'est que l'État, enfin le gouvernement, a véritablement demandé au ministère de l'Intérieur, de l'Infrastructure territoriale, de faire le truc. Ils ont fait l'avant-projet, ils ont laissé fuiter pour entendre un peu les échos. Souvent, les politiques sont très forts, ils font ça. Donc, il faut prendre un peu quoi, la tension, la température. Ouais. Et après, ils voient qu'il y a beaucoup de tensions autour, parce qu'après, on a vu Irganda et autres associations faire des réunions, et chacun a proposé que telle commune soit telle région, tel cercle soit telle région, etc. Et donc, après, comme ce n'est pas signé, donc personne n'est coupable. Mais la deuxième hypothèse, c'est qu'en réalité, le gouvernement communique mal. Il communique très mal, parce que ce n'est pas la première fois qu'un document fuite et qui concerne le gouvernement. Souvent même des choses qui se passent au Conseil des ministres sont connues avant même la lecture du Conseil des ministres, en fait, au journal de 20 heures. Donc, ça veut dire quelque part, il y a un déficit de contrôle de l'action gouvernementale et surtout que le gouvernement, les gouvernements successifs, hein, à des moments peut-être différents, ont toujours, entre guillemets, mal communiqué. Je prends juste l'exemple de du recensement de la carte Nina à l'époque. Dans certaines localités, les agents recenseurs ont été chassés, littéralement, de beaucoup de villages. Même à Bamako, les gens, au début, ne voulaient pas se faire enrôler. Et après, il a fallu faire beaucoup de campagnes. Après, les gens se sont bousculés. Ils faisaient faire la queue toute la journée et puis souvent payer un peu pour passer devant les autres. Donc ça, à chaque fois, ça arrive. Maintenant, dans cette histoire, je pense que le gros problème, c'est que si on doit, en tout cas, élaborer quelque chose, les deux options sont possibles. Soit on propose quelque chose à partir de Bamako, qu'on soumet au niveau local, ensuite au niveau des cercles, ensuite au niveau des régions, et après on fait une assise nationale ou c'est pas un atelier national de validation. Soit on laisse complètement les propositions. On lit aux Maliens, maintenant tel que le Mali, nous avons hérité en tout cas une administration, on va dire, une organisation politique coloniale telle que M. Sy l'avait dit. Ce qui est une vérité. Et après 60 ans, l'État n'est pas toujours très proche des citoyens. L'État est perçu par certains comme étant un État prédateur, un État qui fait des ponctions, et au mieux, des rapports de vérificateurs qui montrent que la plupart des gens qui arrivent sont des prédateurs des fonds publics. et que donc il y a un enrichissement d'une élite sur le dos d'une population. Donc la loi de 20-80% de Pareto. Donc on peut le dire, reconnaître qu'il y a un problème de gouvernance au Mali. Ce qui n'est pas faux, un problème de gouvernance dans tous les secteurs. Vous prenez le cas de l'insécurité, ce n'est pas pour rien que dans les zones qui vivent l'insécurité, que ce soit seulement les représentants de l'État qui sont en priorité ciblés par des gens armés, qu'ils soient terroristes ou toutes les qualifications que vous voulez. Donc il y a un problème de gouvernance et je pense qu'au-delà du redécoupage, il faudrait plutôt voir une refondation de l'État pour que les gens puissent se reconnaître dans cet État-là. Les gens ne se reconnaissent plus. Pourquoi, malgré l'insécurité, les maires ont fui, les préfets, les sous-préfets, tous ceux qui représentent l'État, tout le monde a fui, mais les chefs locaux sont restés, les chefs coutumiers, parce qu'ils ont une certaine légitimité, parce qu'ils avaient des comportements respectueux vis-à-vis des populations. Je ne dis pas que tous les administrateurs le sont, mais dans la façon globale, parce que vous savez, quand vous avez un seul morceau d'arachide qui est pourri, ben ça pourrit tous les sacs, enfin, en tout cas, ça ternit l'image de tous les sacs. C'est un peu c'est à quoi on arrive. Donc je pense que si l'État reconnaît qu'il gouverne mal, et qu'il est très loin du citoyen, et que les préoccupations, même que l'État endosse, sont loin, éloignées des préoccupations sécuritaires.
Vu l'évolution de la situation, pensez-vous que l'État est conscient de cela? Parce qu'il y a eu le même cas avec la révision constitutionnelle.
L'État est conscient, mais vous savez que le problème, c'est que l'État, et là c'est la géopolitique, le Mali est d'une certaine manière, entre guillemets, sous tutelle. Je donne juste un exemple. On a organisé une conférence dite d'entente nationale. Moi, je dis ça comme ça. Dite d'entente nationale, qui a fait des recommandations. Une des recommandations, c'était de discuter avec Iyad Agali et Amadou Koufa. Donc, si la conférence était d'entente nationale, on devait appliquer les recommandations. Le président Ibeka lui-même publiquement a dit qu'il n'est pas question de discuter avec eux. Pourquoi? Parce que la France ne veut pas. Il faut dire les choses clairement. Pourquoi aujourd'hui on veut faire le redécoupage? Pas parce que seulement c'est nécessaire, on l'a dit, on ne va pas répéter cela. Mais est-ce que c'est opportun? Si oui, d'accord, mais est-ce qu'on doit l'organiser tel qu'on veut le faire? Parce que si on le fait, c'est comme si on marche sur la tête. On commence par le sommet, et après on va concerter qui au niveau local. Parce que si les régions décident, les locaux, on va juste mettre les gens devant les faits accomplis. Et à l'Assemblée, l'Assemblée a acquise au pouvoir en place. Donc on risque de faire comme en 2009, le code des personnes de la famille, on va aller valider quelque chose qui après va avoir des conséquences et va être inapplicable. Donc, il faudrait juste que les gens se ressaisissent et qu'on sache que, bon, c'est vrai que la communauté internationale est là, elle est supposée nous aider. Bon, elle n'a pas joué complètement tout son rôle comme elle doit le jouer, sinon on n'en serait pas là. La question du DDR est un des exemples. Depuis un an, les camps sont disponibles, mais on n'arrive pas à bouger. Parce qu'en fait, elle n'a pas tapé du poing sur la table, etc. Donc, il faut que les gens s'assument. Donc, l'État peut dire, ben, de toute façon, le Mali, personne ne le fera à notre place, qu'on veut redécouper. Pour le moment, donnez-nous le temps de qui peut aller au temps de, qui peut aller même au-delà d'un mandat qui est 5 ans. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de créer des régions et que demain, d'autres personnes se sentent frustrées que les gens prennent des armes. Parce que quand même, n'oublions pas que nous sommes dans un pays aujourd'hui où les armes circulent comme des cacahuètes.
Justement, vous l'avez dit, est-ce opportun? Puisque l'objectif, selon les autorités, c'est de prendre en compte les avis et les suggestions des populations avant de valider un projet de réaménagement du territoire et que c'est de promouvoir un développement local équilibré et de faire face aux défis sécuritaires. Au moment où l'essentiel du territoire n'est pas sous le contrôle de l'État malien avec cette grogne sociale, est-ce que vous pensez, vous, que c'est opportun?
Moi, je me dis vraiment, c'est, ce que vous venez de citer, c'est beau à entendre. C'est, si c'est pour impulser le développement local, vraiment, c'est beau à entendre. Et puis, si l'initiative est salutaire. Mais l'essentiel est que vraiment, il faut que le projet vienne de la base d'abord. S'il y a le consensus de la base, sur l'unanimité de la base, vraiment sur le redécoupage du territoire, la création des circonscriptions des entités, il n'y a pas de problème.
Mais est-ce que, en principe, ça doit est-ce pas qu'en problème. Ce moment, il est même possible de recueillir l'avis de la base?
C'est ce qui n'est pas évident. C'est ce qui n'est pas évident. C'est que vraiment, la crise nous met dans une certaine situation, comme Dico l'a dit vraiment, il y a dans tous les secteurs, dans tous les indicateurs de la gouvernance aujourd'hui, il y a une certaine paralysie vraiment à tous les niveaux. La gouvernance institutionnelle, on ne peut pas dire aujourd'hui que toutes nos institutions répondent aux normes, aux exigences de la Constitution. Je prends l'exemple du Haut Conseil des collectivités qui, vraiment, a terminé son mandat depuis combien d'années? Avec les ratés des élections communales de 2016, on doit, en principe, dissoudre le Haut Conseil des collectivités.
On parle toujours des élections communales partielles, mais qui seront vraiment les répondants vraiment des 59 communes vraiment qu'on n'a pas pu renouveler en 2016? Qui seront les répondants vraiment de ces entités-là au niveau du Haut Conseil des collectivités? Ça, c'est un problème. Les élections des conseils de cercle, des conseils régionaux, si vous voyez que vraiment on n'arrive pas à tenir tout ça, c'est parce que la crise sécuritaire est là. Comme Dico l'a dit, vraiment, on n'a pas la main mise vraiment sur l'ensemble du territoire national pour faire vraiment ces consultations électorales. Et même si vous voyez à la sortie des élections présidentielles, c'est vrai, ça a été fait, mais à quel prix? On a vu que vraiment dans certaines circonscriptions, il n'y a pas question vraiment que vraiment l'armée régulière, vraiment l'armée régalienne de l'État vraiment soit présente dans ces circonscriptions électorales. Pourquoi? Donc on va créer ces mêmes circonscriptions administratives qui seront en même temps des circonscriptions électorales encore. Pour et choses.
Oui. Et si vous permettez, juste à ce niveau-là, vous savez, le gouverneur de Taoudéni est à Tombouctou. La moitié de la population de Taoudéni vit à Tombouctou.
Celui de Kidal
était à Gao pendant longtemps, après ouais, il est parti à Kidal, mais en réalité, c'est la SEMA qui assure sa sécurité.
Donc, alors, ce redécoupage sera fait selon les autorités pour la population. Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le citoyen lambda au fin fond du Mali est même au courant que des concertations régionales doivent se tenir?
Pas du tout. Pas du tout, ils ne sont pas au courant. Vous savez, c'est comme, on va dire que la plaie s'est gangrenée. En fait, quand une plaie se gangrène, elle est difficile à soigner. C'est ça, notre mal. Et puis, le second mal, c'est que malheureusement, toutes nos politiques publiques sont financées par autrui. Et la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit.
Pensez-vous que ce redécoupage est dicté par d'autres?
Mais c'est clair, là. C'est même pour manger, là, il faut que quelqu'un nous donne l'argent. Mais ça, c'est très clair. Pour étudier, il faut que quelqu'un d'autre finance. Pour se soigner, il faut que quelqu'un d'autre finance. Quand tu n'as pas les moyens de ta politique, tu feras la politique de ceux qui ont les moyens. Ça, c'est évident. C'est une évidence, là. Mais seulement, faudrait-il que toi qui veux mettre en œuvre une politique et toi-même, tu sois sincère avec toi-même et tu le veuilles. Vouloir, c'est pouvoir. Mais est-ce qu'on veut véritablement se défaire de ce joug-là? Un professeur chinois a dit, je l'ai vu sur le réseau social, que lui, les Africains, c'est pas, ça va au-delà du Mali. Les Africains, c'est comme un chien que tu libères. Il revient toujours vers son maître. Il l'a dit. Je dis le chien pour ne pas dire l'esclave. C'est en ces termes qu'il a dit. Quand tu lis ce qu'il est dit, c'est choquant pour un Africain, mais à la réflexion, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Donc, bon, ça se fera. Ils ne sont pas au courant. L'autre, Dico, a dit que le gouvernement communique mal. Il communique très mal, d'autant plus qu'ils ont eu cette initiative d'organiser un séminaire-atelier sur l'élaboration d'une politique gouvernementale de communication. Ce jour-là, moi, j'étais dans la salle. J'étais là, je représentais mon parti politique, parce que les partis politiques étaient conviés. Ils se sont mis à faire des communications après le discours d'introduction, le lancement et tout ça. Moi, j'ai demandé la parole, j'ai demandé à m'exprimer en bambara. Ça a pris 7 minutes pour qu'ils acceptent que je m'exprime en bambara. Mais je voulais juste leur dire ceci. Comment se fait-il que vous travaillez pour les Maliens, la majorité des Maliens parlent bambara, et vous ne voulez pas communiquer avec les Maliens dans la langue qu'ils comprennent? C'est un paradoxe. On me dit, non, il y en a ceux qui ont financé l'atelier, il y avait deux messieurs des Européens et une dame. Non, non, il faut qu'ils comprennent. Je dis, mais si vous partez en Allemagne ou en Chine, ils vont cesser de parler chinois ou allemand parce que toi, tu es là. Ils ne vont pas le faire. Vous êtes là pour parler au nom de celui qui est dans sa pirogue, celui qui est derrière ses troupeaux, celui qui est dans son champ. Vous êtes là pour parler au nom de ceci. Alors, de grâce, ne trahissez pas les Maliens. Donc, ils communiquent très mal. Donc, ils ne sont pas au courant pour répondre, ça c'est certain. Et ça va mal se terminer. Ça n'ira nulle part, cette affaire-là.
D'accord. Courte pause avant de nous retrouver.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le redécoupage administratif, c'est nécessaire selon nos invités, mais le moment est-ce opportun? C'est la question qui se pose. Alors, quel type de découpage administratif faut-il pour le Mali? C'est la question que nous allons adresser à Dr Sow.
Bon, quel type de découpage? C'est vrai que vraiment, on est dans une lancée aujourd'hui. Il faut créer de nouvelles circonscriptions à caractère administratif, entités administratives, mais en même temps collectivités territoriales. Le découpage, je pense que je reviens un peu en arrière. Je pense que quand on dit que l'État, c'est une continuité, il faut que vraiment les dirigeants prennent en compte un peu ce qui a été conçu, ce qui a été fait comme conception en termes de réforme administrative. Et je m'adresse vraiment au ministère de la réforme administrative, vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays, il y a beaucoup de réformes à faire. Et en 2000, il y avait un projet de texte définissant un peu pour essayer de redéfinir le statut particulier du district de Bamako. Parce que là, et depuis 2000, ce projet est déjà sous les tables, mais à chaque échéance électorale, la classe politique, l'influence politique fait que vraiment on écarte le dossier parce que chaque élu veut sauvegarder vraiment son point de chute dans les 6 communes. Le contenu de ce projet, c'est que vraiment il faut y aller vraiment comme le cas du Sénégal et du Burkina, c'est-à-dire ériger Bamako en région. Il y a un vide de déconcentration dans le district de Bamako qui est là. On n'a pas de préfet, on n'a pas de sous-préfet. Donc il fallait ériger Bamako en région et les 6 communes seront les communes d'arrondissement. Oui. Les 6 communes seront les communes d'arrondissement. En même temps, dans la réforme de la déconcentration, on va prévoir également la création des circonscriptions, cercles et arrondissements dont le préfet et le sous-préfet seront désignés dans ce sens pour représenter l'État.
D'accord, ça c'est pour Bamako. Et pour le reste?
Ça c'est pour Bamako. Mmh. Pour le reste, il y a des vides du territoire qui sont là. Comment animer ces territoires-là? Donc forcément, il faut aller vers la création de nouvelles entités. Mais je me dis aujourd'hui, avec la loi du 2 mars 2012, dont vraiment on dit que l'accord a pris sa souche dedans, je me dis vraiment il y a certaines circonscriptions, on n'a pas besoin de les ériger en région parce qu'ils ne répondent vraiment à aucun critère qui sont là. Il n'est pas question également qu'on essaye de remonter les arrondissements en cercle, les communes en cercle, parce que dans la logique de certains, c'est ça au fait. Quand on va ériger les cercles comme Menaka, Taoudeni, Nono, Douanzan, ainsi de suite en région, donc forcément, les arrondissements qui sont à l'intérieur de ces cercles seront des cercles. Et les communes d'arrondissement qui sont à l'intérieur de ces arrondissements seront des arrondissements, ainsi de suite. Donc il faut qu'on essaie vraiment de déplacer le problème. Parce qu'il n'est pas dit que vraiment chaque entité administrative soit érigée en circonscription, cercle ou arrondissement. Il y a de ces exigences qui sont là, comme on l'a dit depuis le début de la discussion, comme quoi il y a la question de la potentialité démographique est là, le potentiel humain est là. En même temps, le nerf de la guerre, vraiment, ça, c'est l'économie locale. Si l'économie locale, comme Diko l'a dit, une commune composée de 3 villages, forcément, vraiment, l'économie locale n'est pas là vraiment pour impulser le développement à la base.
D'accord, à vous, monsieur Si. Quel type de découpage?
Bon, type de découpage, je l'avais dit à l'entame, hein, je dis une régionalisation fondée sur le terroir. Donc, il y a un ancien ministre, en tout cas, qui a eu le mérite de lancer cette proposition. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fait son chemin. C'était El Mokhtar, je ne sais pas, il était ministre de la Réconciliation.
Mais est-ce que cela ne remettrait pas en cause la diversité culturelle?
Non, du tout. Parce que c'est comme si vous voulez faire de l'unité un ensemble. C'est en fait ça. Je prends par exemple Ségou. Vous avez par exemple le Do, qui est une région naturelle. Vous avez le Massina qui se partage entre Ségou et la région de Moti. Le Massina est une région, culturellement parlant, sociologiquement parlant et économiquement parlant. Le Massina peut être une région. D'accord ? Voilà une région naturelle, homogène, économiquement viable. Ça peut se faire. Moi, je suis du Ouassoulou, par exemple. On me dit région de Sikasso. Mais c'est trop vague. Mais quand on va dire Ouassoulou, je me sens concerné. Et faites un constat. Les ressortissants, les associations des ressortissants de région. Quand il y a une réunion, vous allez voir, il y a de la foule qui vient. Pourquoi ? Parce que je suis du Ouassoulou, je suis de Ségou, je suis de Kaï. Les gens viennent. Mais quand on va dire, bon, c'est les Kaïsiens ou je ne sais pas quoi, personne ne viendra.
D'accord. Monsieur Diko, un redécoupage tel que le propose.
Le terroir est la clé,
monsieur,
moi, à mon avis.
Si, le terroir, est-ce que cela ne va pas poser un autre problème quand on voit, par exemple, cette question d'Azawad, quand on va parler de Massina, de Ouassoulou, est-ce que ça ne va pas remettre en cause la diversité?
Je ne pense pas. Vous savez que le problème, c'est que nous essayons de copier les autres. On tend vers la globalisation du monde et on essaie de vouloir gommer les spécificités. Qu'on le veuille ou pas, l'individu appartient d'abord à un milieu socioculturel qu'il a vu naître et qu'il a forgé et qu'il lui a inculqué des valeurs. Sans ces valeurs, il devient un animal. Donc si on arrive à se reconnaître, en tout cas à appartenir à des entités, c'est tout à fait viable. L'important, c'est que, qu'est-ce qu'on veut ? Vous l'avez lu, l'extrait. C'est d'abord le développement local. Monsieur Si est prêt, par exemple, à investir pour le Ouassoulou. Donc, c'est tant mieux. Vous savez que, donc, quand on dit, quand c'est des entités qui ont un sens, qui ont un sens psychologique, qui répondent, en fait, à des normes sociologiques, anthropologiques, des choses comme ça, et qui sont viables, par ailleurs, économiquement, les gens ne peuvent qu'investir dans ces localités-là. Mais le problème, c'est que si je prends justement le cas de Sikasso, dans Sikasso, vous avez beaucoup de choses. Vous avez les Kenedougou, vous avez les Ganadougou, vous avez les Ouassoulou, etc. Donc Sikasso, c'est très éloigné de cette zone de Ouassoulou. Or, cette zone de Ouassoulou est très propice. Donc, c'est juste un exemple entre autres. Quand je prends le Birgo, la zone de Kita, donc c'est pareil. On peut bien faire ça. Mais quoi qu'il en soit, il est important, peu importe le nombre de régions finalement qui vont être arrêtées, parce qu'à un moment donné, il faudra faire un filtrage. Qu'on commence du bas vers le haut, ce qui est l'idéal. On commence du haut vers le bas, ce que moi je n'aime pas, parce que, en fait, qui est source de conflit. À un moment donné, on sera obligé de tamiser parce que l'État n'aura pas les moyens de prendre en charge toutes ces nouvelles entités qui vont être créées. Parce que qui dit région, ben, dit un gouvernorat, dit un personnel, dit d'autres ressources. Donc il faudrait, je pense, à un moment donné voir et puis peut-être faire une régionalisation par palier aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de voir aujourd'hui où est-ce que c'est nécessaire, où est-ce que c'est urgent de régionaliser. Et puis petit à petit, on essaie de faire. Je pense que les concepteurs de la décentralisation même avaient pensé cela pour la décentralisation. Mais après, ils ont eu peur pour certaines raisons. Et puis bon, ils ont voulu élargir en fait à l'ensemble du pays. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire ça et là.
D'accord. Donc, il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité, pour des propositions. À vous, monsieur Si, aujourd'hui, que faut-il faire ? Abandonner cet avant-projet de découpage administratif ou le poursuivre ?
Bon, dans la forme actuelle, moi, je pense que dans le fond, l'idée, il est bon. Elle est bonne plutôt. C'est-à-dire qu'il faut, la pyramide doit être large à sa base. Il ne faut pas renverser la pyramide. Donc les concertations doivent venir du bas vers le haut. Quand on est à l'ère actuelle, en cette période de démocratie et en cette période de tension, d'insécurité latente et de révolte, donc il ne faut pas chercher à imposer aux gens. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi je disais que ça ne marchera pas. Donc il faut lancer la balle dans le camp du local et les gens vont remonter
vers le
leur avis.
D'accord, merci, voilà. Monsieur Si. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les concertations régionales en 5 jours pourront résoudre cette question ?
Même en 2 ans, les concertations ne peuvent pas résoudre cette question-là. Parce que quand on prend l'exemple de la création des communes en 96, ça a banalement pris 3 ans. Donc bon, si on part de ça, en 3 jours, ce n'est pas possible. Moi, ce que moi j'allais proposer, la logique politique, il ne faut pas que vraiment toutes ces circonscriptions soient représentées à l'Assemblée nationale à partir de l'élection législative de 2019, disons. Il ne faut pas qu'on aille sur cette logique. Moi, je n'associe pas la création des circonscriptions à la représentation de ces entités à l'Assemblée nationale.
D'accord, 30 secondes à vous.
30 secondes. Merci bien. Moi, je voudrais juste dire que pour le moment, il faut observer une pause et travailler à concilier la classe politique à Bamako. et ensuite s'occuper du DDR dans les régions où en fait le DDR est prévu. Et après, on va travailler ensemble pour le Mali.
D'accord, merci. Je l'ai dit au début de ce débat, l'essentiel des questions ont été suggérées par des internautes, des auditeurs et téléspectateurs. Merci à M. Mamadou Breima, Mamadou Kone et Mme Gisèle Flanda. Je rappelle que Studio Tamani, c'est toutes les voix du Mali. Vous pouvez tous les jours proposer des sujets de débat et même des questions autour des grands dialogues. Merci à nos invités, M. Dr. Ibrahim Sow, juriste spécialiste du droit public, Dr. Breima Elidi, chef du département sociologie à l'Université de Bamako, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, spécialiste de la géopolitique à la régie audio et vidéo Seydou Daou et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue. Et je rappelle que ce débat sur le découpage administratif, nous le ferons en langue nationale également.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mouli.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.